8h11 minutes. Dans les dernières semaines en Outaouais, il y a eu plusieurs cas de bébés qui s'étouffent et qui nécessitaient des transports à l'urgence. Mais évidemment, quand l'urgence est ouverte, là, ça c'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans, mais qui nécessitaient un transport à l'hôpital. Et il y a plusieurs qui pointent du doigt la méthode DME, une méthode d'alimentation autonome. Pour en apprendre plus, nous recevons avec plaisir la docteure Christiane Laberge. Madame Laberge, bonjour.
Bonjour, Carl.
Alors, docteur, la méthode DME, ça veut dire quoi?
Oui. DME, c'est l'alimentation gérée par l'enfant. Hein? Et ce que ça veut dire, c'est que l'enfant utilise ses doigts, sa bouche, sa coordination pour apprivoiser la texture, le goût naturel des aliments et la capacité de les prendre lui-même. Donc, de gérer lui-même ce qu'il va entrer comme nutriments, évidemment en fonction de ce qu'on va lui présenter. Mais n'est pas beaucoup d'appelés peu d'élus, dans le sens qu'il faut que ton enfant se tienne droit en équilibre assis. C'est-à-dire que si t'as un enfant qui chambranle, ben tu risques, le bébé risque en se penchant vers en avant, perdant l'équilibre, de faire et de là, d'avaler un morceau qui n'est pas supposé avaler. Les enfants ont un réflexe, ce qu'on appelle le gag réflexe. Tu sais, quand tu vas te faire un prélèvement de gorge, puis le cœur te lève, là, ben ça, c'est ton réflexe.
Je l'ai très développé, hein? Ce réflexe-là, je vous le dis.
Effectivement, il est plus ou moins développé d'un individu à l'autre. Il y en a qui se brossent les dents dans le fond, puis ils ont déjà un gag. Alors, les enfants ont ce réflexe-là très fort, de telle sorte que quand l'enfant va s'étouffer, entre guillemets, parce qu'il va le faire, il va arriver à son stade de gag, si le parent en face ou le gardien est paniqué, puis que tout de suite il intervient, c'est pas une bonne idée. Le bébé, s'il régurgite ce qu'il vient de manger, ben à ce moment-là, tu dis « Bravo bébé, c'est ça qu'il faut faire ». Alors, ça demande un bébé qui se tient assis correctement. Donc, c'est pour ça qu'on dit autour de 6 mois. Mais tu as des bébés qui à 4 mois vont le faire, puis il y a des bébés qui à 8 mois vont le faire. Donc, cette marge autour de 6 mois. À 6 mois, l'enfant devrait être nourri avec des aliments solides parce que l'allaitement sert de base jusqu'à l'âge de 6 mois, puis après, on commence. Donc, ça reste encore ton aliment de base auquel tu complètes avec des aliments. Donc, l'enfant est assis. C'est zéro TV, zéro cellulaire, zéro rien d'autre que tes petits yeux sur l'œil du bébé et sa bouche surtout. Zéro, 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 je retiens rien.
Donc, ça prend de la discipline de la part du parent là, ou du gardien de ne pas se laisser distraire parce que ça peut arriver vite.
Voilà. Et même, je te dirais que si c'est un 5e enfant de famille, les défis sont plus grands. Parce qu'effectivement, il faut que tu aies les yeux braqués sur le bébé. Et de là, le bébé va comprendre comment on mange. Donc, il faut qu'il y ait une dextérité fine assez développée pour être capable de prendre l'aliment. Au début, là, on s'entend que tu donnes à manger en couches. Parce qu'après ça, tu les prends par les oreilles puis tu les amènes dans la douche. Parce que souvent, il va en avoir partout.
Ben oui, ça se beurre assez facilement. Là, hein? Si tu les laisses prendre, manipuler, peu importe l'aliment, je veux dire, trouver... Le mouvement de l'assiette au visage fait souvent des détours.
C'est ça, exactement. Par les cheveux des fois, mais c'est pas toujours compréhensible. Donc, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois prêt. Tu sais, si tu t'appelles Madame Blancheville puis qu'un petit poids sur le plancher, ça te fait faire une crise d'anxiété, c'est pas pour vous, le DME. On s'entend-tu? Il y a des parents qui sont pas faits pour ça. Les parents très anxieux, arrêtez de vous obstiner parce que c'est pas fait pour vous. Vous êtes un petit couple, vous êtes une cellule familiale, bien, vous faites ce qui est de mieux pour votre cellule familiale. Alors, effectivement, ça demande des parents calmes. Ça demande des parents et des gardiens qui savent comment faire la manœuvre d'Emlitch. Et ça, c'est pour tous les parents. Parce que ton enfant, il va ramasser quelque chose à terre, puis il va s'étouffer. Et si tous laissent le faire, tape-y pas dans le dos, prends-les pas les bras en l'air, laisse-les tousser. Parce que tant qu'ils toussent, il y a de l'air et il y a de la propulsion. Si par contre, ils te regardent les yeux hébétés, la bouche ouverte, puis il n'est pas capable de rien faire, oh, là, tu interviens. Et tu fais ta manœuvre d'Emlitch. La manœuvre d'Emlitch va être sécuritaire et efficace dans la grande majorité des cas pour tous les produits qui doivent rentrer dans la bouche et qui ne sont pas supposés.
Là, il y a certainement beaucoup de parents qui nous écoutent, là, docteur oui. Laberge, qui disent, bien là, nous, ce qu'on nous a montré, c'est acheter des petits pots, puis les nourrir à la cuillère, puis ou faire ses propres purées, puis commencer comme ça. Mais là, dire, il semble qu'on a l'impression qu'on saute une étape, dans le fond, avec la méthode DME.
En fait, on saute pas d'étape. Ma mère, elle a appris ça il y a longtemps, les petites purées, puis les petites affaires, puis tout ça, pour sa propre enfant. Mais maintenant, elle a une petite fille qui a 18 mois et qui a eu la DME. Et effectivement, c'est une autre approche. Et en tout cas, naître et grandir a été ma Bible pour pouvoir assister au repas de ma petite fille. Et effectivement, ça va très bien. Mais il s'agit de respecter certaines règles. Par exemple, si on, les enfants en purée, on est souvent obligé de donner, ou en tout cas tenter, envoyer donc, il reste juste deux petites bouchées, tu sais, fini donc. L'enfant avec la DME apprend à manger, à respecter ses choix, au même titre qu'avec l'allaitement. Tu sais, tu finis pas le 2 onces, l'once qui reste, parce qu'il en reste juste une once, tu sais.
Quand il est rassasié, il arrête. C'est essentiellement
il a,
c'est ça.
Il a fini, il a fini, tu sais. Ouais. Quitte à reprendre dans 2 heures, parce qu'il fait très chaud, puis il a juste besoin du petit lait, là. Mais ça se peut. Donc, l'enfant va gérer lui-même son appétit en fonction de ce que tu vas lui offrir. Est-ce que tu risques de perdre des aliments? La réponse, c'est oui. Mais t'en donnes pas un char, là. Tu commences par, je sais pas moi, 2 carottes cuites que tu mets en bâtonnet, que l'enfant est capable de prendre, mâcher. Puis tu vois si t'as un enfant habile ou si t'as un écureuil. Tu sais, si t'as un enfant qui se rentre tout dans la bouche puis qui est pas capable de gérer ce qu'il y a dans la bouche, ou si t'as un enfant qui va manger des petits morceaux à la fouet, puis qui va croquer, puis qui va, avec une gencive, tu sais, ça dépend aussi des dents, puis de la capacité de l'enfant de se ramener les 2 gencives ensemble, tu sais. Fait que ça aussi, la mâchoire, il faut que tu regardes si elle est mobile, si elle est efficace. Les enfants, par exemple, qui ont un frein trop court de la langue, ben ils ont de la misère avec ça. Les enfants qui ont de la difficulté motrice, par exemple, à l'allaitement ou à boire, c'est pas des enfants qui vont être à même de prendre cette technique-là. C'est pour ça que c'est une alternative intéressante dans la gestion des aliments et la gestion de l'appétit de l'enfant. Donc, c'est ça, les avantages. Tu leur donnes un morceau de rôti. Tu leur donnes pas du pain blanc, parce que ça fait des motons, hein, avec la salive.
Ouais.
Alors, tu leur donnes, par exemple, un morceau de rôti sur lequel tu vas avoir mis ces céréales. Au lieu de mettre du beurre de peanut, tu peux mettre du beurre d'arachide. Tu peux mettre du beurre de noix. Tu peux mettre de l'houmous. Hein? Ça contient du fer, c'est des légumineuses. Donc, tu peux mettre de l'houmous sur un pain pita, mais un morceau de pain grillé, parce que ça, l'enfant va le mouiller et va l'avaler plus facilement. Il va avoir conscience qu'il y a quelque chose dans la bouche. Ton pain blanc, ta mie de pain blanc, bien ça, ça va faire un moton, puis ça risque de passer un peu croche. Les raisins qu'on disait, pas avant 4 ans, bien, on peut en donner plus jeune, mais évidemment, coupe en deux, coupe
ben
en
oui,
quatre,
ouais, il faut les couper
dépendant de ton enfant. Mais toutes les noix, par exemple, on disait, on donne pas d'œuf, hein, pas de blanc d'œuf avant l'âge d'un an, 11 mois, en fait. Donc, on disait, non. Là, on sait que les enfants exposés aux ingrédients, aux aliments allergènes connus, les noix, les œufs, le lait, etc., bien, les enfants sont moins allergiques quand ils sont exposés jeunes. Donc, ton enfant, c'est sûr que tu vas lui donner des choses plus caloriques s'il ne prend pas des gros volumes. Un jaune d'œuf est plus calorique et enrichi que tout l'œuf au complet. Donc, tu t'ostines moins pour donner le blanc quand il ne mange pas beaucoup. Mais si l'enfant est rendu à 8 mois et il mange à peu près comme toi, là, entre guillemets, en composé alimentaire, bien, à ce moment-là, tu lui donnes ton œuf cuit, bien sûr, ça fait des languettes, ça fait des morceaux. Puis, il va manger les morceaux à la main. Il va les manger aussi. Il va commencer à jouer avec la cuillère, mais tu sais, il ne mangera pas avec au début, là. Puis, la petite fourchette. Puis, tu sais, tu commences. Il va commencer à mimer plus volontiers les aliments de ses parents qui n'auront pas 4 repas à faire. Tu comprends? Les enfants vont manger souvent la même chose que les parents.
Ah, mais ça, c'est intéressant parce que ça diminue le nombre de repas essentiellement qu'on prépare si on l'habitue à manger. Mais en même temps, on peut pas le docteur Laberge, on peut pas lui mettre un T-bone sur la table.
Non, pas tant. D'abord, on sait qu'il y a des dents. Ça, c'est comme l'autre partie de la vie, tu sais. Grand-maman qui a plus de dents, là, puis qui ne tolère pas ses dentiers, non plus, on va pas lui donner un steak non plus. Donc, c'est effectivement les deux parties de la vie où on devra faire attention à ce qui est capable d'avaler, ce qui est capable de manger, ce qui est capable de digérer. Même affaire, même combat.
C'est
pour ça que c'est une belle technique. Faites pas ça tout seul si vous n'êtes pas habilité. Si vous avez des grands-parents hyper résistants, suivez vos cours tous les deux avec la nutritionniste du CLSC ou ayez un rendez-vous avec une nutritionniste qui va vraiment vous coacher, vous instruire sur le fait et à recevoir les... Parce que, tu sais, les enfants ne reçoivent pas de conseils des grands-parents, puis les grands-parents ne reçoivent pas de conseils des enfants. Hein, c'est ça, c'est connu. Donc, faites le cours ensemble ou sensibilisez-vous ensemble. Moi, j'aime beaucoup le site, je ne sais pas si tu connais, Naître et Grandir.
Oui, naître-et-grandir.com, qui
c'est ça.
Très utile, puis beaucoup de conseils.
Absolument, puis surtout ne pas nuire, hein, c'est comme en médecine, finalement.
Et le temps file, docteur Laberge, avant qu'on se quitte, là, je voulais vous parler de Santé Canada. Il y a été beaucoup question des effets secondaires des vaccins, surtout d'AstraZeneca, hein, les thromboses.
Ouais,
et plus récemment, on a émis également un avis pour le syndrome de fuite capillaire. Mais là, Santé Canada a mis à jour les monographies, les étiquettes des vaccins qui sont
Pfizer et Moderna
le plus
ARN messager,
Les ARN messagers, on parle de myocardite et de péricardite. Qu'est-ce qui se passe là?
Ça, c'est un phénomène viral. Donc, avec n'importe quel virus, un jeune, surtout des jeunes hommes, hein, 75% de 25% c'est des filles, et c'est des jeunes, donc dans la vingtaine, trentaine, qui soudainement vont avoir dans la péricardite. Le péricarde, là, c'est l'enveloppe du cœur.
Ouais.
C'est deux petits feuillets qui enveloppent le cœur, dans lequel, entre lesquels, il y a un petit liquide pour favoriser le frottement. Tu sais, le frottement doux, là, je veux dire, c'est un liquide pour la lubrification, pour que ça glisse un sur l'autre.
Ben oui.
Or, cette membrane-là s'inflamme. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait une douleur cardiaque. Donc, la classique, la douleur dans la poitrine, qui va dans le cou, qui va dans les épaules, et qui est soulagée quand tu es penché en avant en position assise. Donc, ça, c'est le classique. Si tu as ça, théoriquement, tu te rends à l'hôpital. Ils vont aller voir avec un électrocardiogramme s'il y a du liquide, une écho aussi, s'il y a du liquide autour du cœur ou s'il n'y en a pas. Si tu n'as pas de liquide, c'est juste une inflammation de la membrane sans trop de liquide. On va te donner des anti-inflammatoires, on va te donner des médicaments cardiaques au besoin. Et ça rentre dans l'ordre. C'est réversible en général. C'est un phénomène inflammatoire accompagnant n'importe quel virus, dont ce vaccin-là. Il y a des cas qui ont été... Parce que dans la population, annuellement, là, t'en as des cas de péricardite virale.
Oui, bien sûr.
Ça existe, là. Ça existe. La myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Or, tu sais que le cœur, c'est une pompe. Hein? Si ton muscle est fatigué, qu'est-ce qui arrive? Bien, t'as de l'eau dans la cave. Donc, ta pompe marche pas. T'es pas capable d'évacuer le sang correctement. Ça peut donner de l'essoufflement. Ça peut donner de l'eau, pour vrai, de l'eau dans les membres inférieurs. Tu peux gonfler. C'est comme les gens qui font de l'insuffisance cardiaque. C'est ça le problème, c'est que le cœur ne pompe pas suffisamment. Ça peut donner des arythmies. Un cœur qui bat beaucoup trop vite au repos ou un cœur qui bat irrégulièrement irrégulier ou qui bat tout croche. Donc, à ce moment-là, on se rend aussi... Et c'est pas nécessairement douloureux, une myocardite. C'est surtout de l'essoufflement, de la fatigue. Tu montes, tu vois, en marche d'escalier, tu es essoufflé, tu te rends à l'hôpital. Mais la majorité des gens qui ont eu ça ont été hospitalisés peut-être une couple de jours, sont rentrés à la maison avec de la médication, surveillance, et s'en sont sortis avec une réversibilité. Ça apparaît dans la semaine qui suit la vaccination chez les rares cas qu'il y a eu.
Mais ça demeure quand même, somme toute, docteur Laberge, ça demeure, somme toute, très rare. Et la recommandation demeure de se faire vacciner.
La COVID cause des myocardites, des péricardites, juste de même, là. Et puis, on oublie les autres symptômes qui sont la COVID longue, qui sont les gens qui ne sont pas capables de récupérer au niveau de la fonction pulmonaire, qui sont les handicaps. Et n'oubliez pas que ce n'est pas juste les petits vieux. Hein, c'est les jeunes. On avait eu à l'émission Parlons-nous un gars de 30 ans, le gars ceinture noire de karaté, travailleur de construction, tu sais, le busybody actif, le maudit parfait, là, tu sais. Et ce gars-là a attrapé la COVID il y avait 10 mois. Et ce gars-là, aujourd'hui, était en réadaptation, travaille maximum 15 heures semaine, pas capable de monter les escaliers, travaille assis sur ses fesses. Chose qu'il déteste. Tu comprends, attacher un gars de même, c'est l'enfer. Donc, le moral en a mangé une claque et il ne sait pas à 30 ans quel sera son avenir et sa récupération. Donc, ça, c'est pas le vaccin, c'est la COVID. Donc, rappelez-vous de ça. Et moi, c'est un peu comme l'annonce du Zona. Ça peut pas m'arriver, moi, je suis en forme puis je mange bien. Bullshit. Pas vrai. Non, ça t'arrive pareil.
Ça peut arriver à tout le monde. Ben oui.
Absolument, Et c'est pas ton facteur de risque personnel. C'est sûr que c'est pire, mais des gens sans facteur sont maintenant handicapés.
Très intéressant, comme toujours, Dr Laberge. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, bonne fin de semaine.
OK, merci beaucoup.